the ones who really love you walk up and down outside the wall. Some hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Maxime. Production. Mise en scène. Julien Jean-Pierre. Enregistrement. CVRP. Et sort de sa chambre tout excité. Maxime entend la clé dans la serrure. Il sort en dehors. Louise est retournée voir son mari au salon. Elle s'assoit à ses côtés. Maxime a besoin de notre aide.
Qu'a-t-il fait?
J'ai promis de ne rien dire. Nous devons le cacher dans le grenier. père est surpris, mais pense qu'il a dû faire de la politique, comme tous ces jeunes. Elle se lève. Et lui dit, viens m'aider, nous allons commencer à aménager sa chambre. Il soupire et se lève. Les torts de jeunes gens font de la politique, ce n'est pas pour cela qu'on est obligé de les cacher. Oui, oui, mais il a fait quelque chose de très grave. Pour une fois que nous pouvons agir en parents, faisons-le. Allons, faisons-le. Et ils sortent du salon. Le grenier est fait de plusieurs pièces où on y a déposé des vieilles choses. Ils ont vidé et nettoyé une pièce, mis un vieux lit qui était dans le grenier, pris des draps et des couvertures au service. Une fois la pièce composée, ça, elle a un côté coquet. On entend les oiseaux sur le toit. Au pied du lit a été mis un tapis. Ils sont allés chercher Maxime et l'ont couché dans sa nouvelle chambre. Cette sobriété l'enchante. Et a l'impression d'être dans un autre monde. Sa mère lui apporte ses repas et un peu de lecture. Elle est heureuse de s'occuper de lui et passe une heure dans la journée avec lui. La plupart du temps, ils n'ont pas grand-chose à se dire, mais ils sont bien ensemble. Le père ne se montre jamais. Il trouve ridicule cette histoire et pense que son fils est une mauviette. Mais se demande pourquoi Hubert n'est pas revenu avec Maxime. Les jours passent ainsi. Maxime reprend des forces, mais reste morose. Il commence à s'ennuyer dans son grenier. Alors, il monte sur la chaise et regarde par la lucarne. Quelquefois même, il l'ouvre. Un après-midi, il voit dans le parc Gisèle marcher. Mélancoliquement, elle porte une robe blanche et semble lumineuse. De haut, il ne voit que sa silhouette et la trouve très belle. Gisèle est venue rendre visite au Dupressant. Sa mère lui fait prendre le thé au salon.
Avez-vous des nouvelles de Maxime ? Demande Gisèle.
Oui, il est en Italie. Son voyage se passe très bien.
Il a de la chance.
Et vous, votre séjour à Vichy ?
Oh, c'était très bien. J'ai même fait la connaissance d'un officier charmant.
Nous devions aussi partir en Italie, mais ma tante est tombée malade.
Pas trop grave.
Non, enfin, c'est une sciatique.
Oh, la pauvre, comme elle doit souffrir.
Non, pas trop.
Gisèle se lève.
Je dois rentrer maintenant, il se fait tard.
Comme vous voudrez.
Louis se lève aussi.
Et dit, revenez nous voir quand vous voudrez.
Merci. Je viendrai pour avoir des nouvelles de Maxime.
Je vous promets de vous les donner.
Et elle se dirige vers la sortie. Gisèle traverse le parc seule. Le cri d'une pie la fait se retourner et lever la tête. Et là, elle voit dans l'encadrement de la lucarne du grenier un visage qu'elle croit reconnaître. On dirait Maxime. Pourtant sa mère m'a bien dit qu'il est absent. Elle s'en va songeuse. Une semaine plus tard, elle revient chez les deux pressants. La mère la reçoit pour le thé au salon. Gisèle lui dit, la semaine dernière, en vous quittant, j'ai cru reconnaître à la lucarne de votre grenier, Maxime.
Maxime ? Mais non, c'est impossible, il est en Italie. Mais bien sûr, c'est un domestique qui lui ressemble un peu.
Gisèle a vu la gêne de la mère et se dit qu'il doit se passer quelque chose de bizarre. En partant, elle voit encore Maxime du hublot. C'est un domestique, que fait-il encore au grenier ? La semaine suivante, elle pousse sa mère à venir avec elle chez les deux pressants.
Pourquoi veux-tu toujours aller chez eux ? Nous n'avons-nous pas été suffisamment humiliés ?
C'est du passé, mère. faut que Gisèle a bu son thé.
J'aimerais aller dans le jardin.
Louise lui sourit, lui dit.
Mais oui, bien sûr, mon enfant.
Et elle laisse ses deux femmes au salon.
Et un peu hésitante, en faisant attention de n'être vue ni entendue, elle monte jusqu'au grenier. Elle a le cœur qui bat très fort, mais tient à savoir si c'est Maxime et qu'est-ce qu'il fait au grenier. Arrivée au grenier, elle frappe aux portes et les ouvre. Restée fermée, elle frappe encore une fois. Pas de réponse.
Je suis Gisèle. Vous n'avez rien à craindre si vous êtes Maxime. Répondez-moi, êtes-vous Maxime? Je vous en prie. Je vous jure que je garderai votre secret.
Maxime, qui depuis quelques semaines trouve Gisèle charmante et qui s'ennuie dans sa chambre, se dit qu'elle ne le trahira pas. Alors, il ouvre la porte.
Elle lui dit : c'était bien vous, Maxime ?
Il la fait entrer et ferme la porte. Il est en chemise blanche et pantalon noir.
Mais pourquoi votre mère me dit que vous êtes en Italie? Pourquoi vous cachez ici?
Je dois me cacher et personne ne doit savoir que je suis ici. J'ai fait une grosse, très grosse bêtise. Et sous un fait que je suis ici, l'on me mènerait à la guillotine.
Mon Dieu! Est-ce si grave?
Oui.
Je ne vous demande rien, Maxime, et je ne dirai rien à personne de votre présence ici.
Je vous remercie, Gisèle. Asseyez-vous, je vous en prie.
Je ne veux pas
vous importuner.
Non.
Votre visite me fait beaucoup de bien.
Elle va s'asseoir sur une chaise. Et lui sur le rebord du lit.
Je ne pourrai pas bien rester longtemps, car ma mère et votre mère risquent de s'inquiéter. Tâchez de revenir me voir, je vous le promets. Vous n'avez pas peur d'être auprès d'un criminel ?
Je n'aurai jamais peur de vous, Maxime. Pour moi, vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours le même et le resterez quoi qu'il arrive.
Maxime est troublé par cette déclaration. Elle se lève
et dit : je dois partir. Vous reviendrez ?
Oui, je reviendrai.
Elle fera tout pour le revoir, car elle aime, qu'importe son crime.
Gisèle se sent vivre.
Elle est un personnage de roman. Son amour est devenu une passion romanesque, romantique. Maxime est en danger. Il se cache. Pour le rejoindre, elle devra affronter tous les dangers. C'est ainsi qu'elle s'imagine la situation après avoir vu Maxime. Elle est dans son lit et brode des choses insensées, des aventures folles dont ils seront les héros. Elle aimerait pouvoir aller le voir plusieurs fois par semaine, mais cela paraîtrait suspect à la famille. Et puis, elle doit convaincre sa mère, et ce n'est pas une mince affaire, car elle en veut aux parents de Maxime de les avoir humiliés, de les avoir humiliés. La mère lui demande irritée.
Qu'as-tu à vouloir absolument me mener ces gens-là? Ne sont-ils pas suffisamment humiliés?
C'est bien malgré eux. Et puis, je veux avoir des nouvelles de Maxime. Elle se met à genoux devant sa mère, qui est assise sur une chaise. Mère, je vous en prie.
Tu l'aimes donc encore, ce goujat?
Oui. La mère soupire.
Bien, nous retournerons voir ces gens. De toute façon, nous repartons bientôt pour Paris.
Déjà, mère?
Oui.
Les deux pressants sont surpris d'avoir encore une fois la visite d'Edard Rogis.
Louise dit au domestique, « Nous les recevrons au jardin sur la terrasse. »
Le domestique sort du salon. Elle demande à Godefroy qui lit son journal.
« Venez avec moi sur la terrasse pour les recevoir. »
Si Maxime n'avait pas fait l'imbécile, il aurait pu se marier avec cette petite. Elle et sa mère semblent tenir à ce mariage.
Il puisse en le journal et le pose sur la table.
Bon, allons-y.
Et il se lève. Il retrouve les deux femmes qui attendent. Lui s'approche d'elles avec le sourire.
Quelle heureuse surprise! C'est ma fille qui a absolument tenu à ce que l'on vienne vous voir. C'est une très bonne idée qu'elle a eue là.
C'est vrai? Cela vous fait plaisir?
Oui, cela nous distrait, mon mari et moi, car nous recevons très peu de monde. Asseyez-vous, je vous en prie.
C'est ce qu'ils font. Gisèle bâille. Et en même temps, elle est bouillonnante.
Mon Dieu, faites en sorte à ce que tout se passe.
Après une heure de conversation, ennuyeuse, Gisèle, tellement anxieuse, n'a pas vraiment participé. Prenant son courage à deux mains, mon Dieu, aidez-moi. Elle pose sa tasse sur la table. Et dit, si vous permettez, je vais faire une promenade au jardin. Sa mère la regarde effarée. Lui, lui. Sa mère la regarde effarée. Lui, lui sourit et lui dit.
Oui, bien sûr. Vous semblez beaucoup aimer notre jardin.
Oui, surtout. Un jour comme aujourd'hui, où il fait si chaud.
Elle se lève et sort. Entre dans le château pour soi-disant aller dans le jardin qui se trouve de l'autre côté de la propriété. Une fois dans le château, elle regarde si personne ne la voit. Il monte aux étages. Elle a la gorge serrée et le corps qui bat. Elle arrive devant la porte et frappe.
Qui est là? Gisèle. Maxime l'ouvre.
Il a le sourire.
Il est encore plus pâle que la dernière fois. Ses yeux sont fiévreux. Il porte les mêmes vêtements. Il a fait entrer et ferme la porte.
Elle est toute tremblante de joie et de peur. Lui la prend par la main et la fait asseoir sur l'unique chaise. La pièce baigne de soleil. Que ses rayons montrent la poussière. Il y a une chaleur étouffante. Maxime s'assoit sur le rebord du lit.
Comme vous êtes courageuse de venir me voir. Ce ne doit pas être facile de venir jusqu'ici sans être vu. Comment faites-vous?
Je force ma mère à venir avec moi. Elle distrait vos parents, ce qui me permet de venir jusqu'ici.
Il se dit, comme elle est courageuse. Comme elle doit m'aimer, comme elle est belle, la pauvre. Je suis un misérable. Alors d'un geste brusque, il se jette à ses pieds et lui dit « Pardonnez-moi, je suis un misérable. Je ne mérite pas votre amour. J'étais aveuglé. C'est cela qui m'a empêché de vous voir. Maintenant, il est trop tard. Ne dites pas cela, Il n'est jamais trop tard. Oui, il est trop tard, car je suis un criminel. Vous exagérez sur vos fautes. Oh que non, j'ai tué mon meilleur ami, celui qui m'aimait le plus au monde. Il a les larmes aux yeux. Je l'ai tué parce jusqu'à... Je l'ai tué parce que j'étais aveuglé par l'amour d'une personne indigne. Il lui prend la main. Elle tremble. J'étais fou. C'est vous que j'aurais dû aimer. Vous, la douce, la belle, et mon amie serait encore en vie. Elle lui dit, ne pensez plus, je suis là. Oui, vous êtes là, mais c'est trop tard. Vous ne pouvez pas m'aimer une personne comme moi. Elle lui dit en fermant les yeux, je vous ai aimé dès le premier jour. Et je continue à vous aimer. Vous vivez caché, je vous aimerai caché. Non, vous ne devez pas plus me revoir. Il faut me le jurer, c'est trop dangereux pour vous. Non, je veux vous revoir. Et puis le temps arrange les choses. J'ai confiance, je vous aime. Moi aussi. Que tu partes maintenant. Elle se lève, lui aussi. Et il la raccompagne jusqu'à la porte en lui tenant la main. Avant d'ouvrir la porte, il la prend dans ses bras et lui donne un baiser sur la bouche. Je vous aime. Tremblante et rouge, elle ouvre la porte et se sauve. Elle est retournée au jardin, vers les autres. Mais où étais-tu devant sa mère? Sous les arbres, au fond du parc. Arrivée chez elle, sa mère lui fait une scène pour l'avoir laissée seule chez les dépressants.
Je te comprends pas. C'est toi qui me forces à aller chez eux et tu me laisses en plan avec eux. Tu me caches quelque chose. Tu veux pas me dire ce que c'est? Tu préfères... Et pourquoi préfères-tu leur jardin au nôtre? Réponds-moi.
J'avais mal à la tête, il faisait très chaud et j'étais lasse. Alors je suis allée au jardin.
Oui, non. De toute façon, c'est la dernière fois que j'y vais.
Oh maman, je t'en supplie.
Mais qu'as-tu à vouloir absolument que j'aille là-bas?
Rien. Je veux simplement des nouvelles de Maxime.
La mère aux épaules. Maxime, il est en Italie. Il ne faut plus penser à lui, ma fille. Il ne t'aime pas.
elle ne t'a jamais aimé. Tu devrais penser au petit officier que tu as rencontré avec tante à Vichy. C'est Maxime que j'aime, mère. Je le sais, mais tu ne peux passer éternellement ton temps à attendre ce garçon. Vous pensez à ton avenir. Bientôt, nous partons et monsieur de Mézières nous a invités en septembre à Paris. L'après-midi, le père revient furieux. Sa femme le voit entrer au salon. Il s'approche d'elle et lui dit :
Tu sais ce que je viens d'apprendre ? Hubert a été retrouvé assassiné dans le parc d'une villa en Italie. Moi qui me pose des questions. Savoir pourquoi notre fils est revenu sans Hubert. J'aimerais savoir, puisque c'est à toi que ton fils s'est confessé, s'il est un criminel. S'il a tué notre meilleur ami.
La mère est effondrée.
Réponds.
Elle soupire.
Réponds.
Il la gifle. Elle lui dit,
il n'y a pas le droit de me faire ça.
Elle leur répond, tu ne comprends donc pas que moi aussi je souffre, que je suis dans l'incertitude.
Il se penche vers elle, ses yeux lui font peur.
Réponds.
Elle sursaute.
Oui.
Le père est effondré, il s'assoit sur un fauteuil.
C'était un accident. Ils se sont disputés. Et dans la bagarre.
Ils se sont disputés. À cause de quoi?
À cause d'une femme que Maxime aimait et qui voulait vivre avec elle. Hubert ne voulait pas.
Godefroy se souvient du départ de Mathilde, son fils et son ami. Passe. Où sont Goron, le petit fumier, et où est la femme?
Ne me l'a pas dit.
Pris de jalousie, il se lève
et dit, je veux le savoir,
et sort du salon en courant.
Il est monté à l'étage. Et d'un coup de poing, il est entré dans la chambre de son fils.
Il est allongé sur le lit. Il s'approche du lit.
D'un geste, avec ses deux mains, il l'attrape à sa chemise et le soulève. Où est-elle, petit salaud ?
Maxime, à peur de cet homme qui ne ressemble plus à son père.
Qui ? Mathilde.
Je ne sais rien.
Parle ou je t'étrangle.
Elle est partie, je crois, avec un officier italien.
Le père le lâche. Il tombe comme un paquet sur le lit. Il le voit sortir de la chambre. Thank you. Les jours passent. Maxime ne voit plus personne. Sa mère ne vient plus. Seul un domestique vient lui porter ses repas. Il attend Gisèle, mais elle ne vient pas, elle non plus. On doit lui empêcher de venir me voir. Pauvre petite, comme elle m'aime. Je souffre de ne pouvoir la voir. Mais c'est ma punition. Je paie pour mon crime. Oh mon Dieu, pardonnez mes péchés et réunissez-nous. Gisèle est partie pour Paris, triste et pleine d'amour pour Maxime. Oh oui, pleine d'amour pour Maxime. Les parents de Maxime sont partis pour Paris, eux aussi, en laissant leur fils. Les domestiques sont sûrs qu'ils ne parleront pas. Maxime se dit qu'il est seul et enfermé dans une solitude comme en prison. Une prison familiale pour éviter le scandale. Sa mère, en arrivant à Paris, se sent prise de remords pour son fils. Car depuis qu'elle l'a su en danger, elle s'est mise à l'aimer, ce qui remplit le vide de sa vie. Une vie qui a été jusqu'à présent sans amour, puisqu'elle s'est mariée par arrangement fait par les deux familles. Et puis, la colère qu'a eue son mari en apprenant le drame, son comportement étrange, où il ne pensait plus qu'à la maîtresse de son fils, comme si ça avait été sa propre maîtresse, cela la vexe et lui donne des soupçons. Il doit y avoir quelque chose, je ne sais pas. Mais je sens que Godefroy a dû participer à ce drame. Alors, comme elle connaît son mari, elle s'imagine son fils en victime d'une machination machiavélique tirée par des ficelles qu'actionne son père. Je ne veux pas que mon fils reste prisonnier et à la merci de son père. Oh non, il faut qu'il vive librement. Mais que faire? S'il sort de sa cachette, la police qui le recherche va le prendre et il sera jugé et guillotiné. Il aura beau se défendre, personne ne le croira. Après plusieurs nuits de réflexion, seul dans son lit, il n'y a que moi qui peux le sauver. J'irai voir Monseigneur le cardinal. Oui, j'irai voir Monseigneur le cardinal. Il me connaît. Il sait que je ne peux mentir. Je me mettrai à ses pieds et lui dirai tout. Pour qu'il demande la grâce au roi. Charles Dill sait que nous sommes une honnête famille. Demander une audience au cardinal qui la reçoit.
Radio Canut vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Maxime, dont
C'était la 5e partie. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
La CVRP Cinéma Vidéo Radio Production vous a présenté une cassette OB.
Canu.
La radio utile.